I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? They are clothes.
It's fashion art. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Bonjour Edem.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour Edem.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous.
Tu es un invité qu'on a longuement attendu.
Ah oui, tu fais partie de cette liste de gens qu'on veut depuis la saison.
Depuis la saison.
J'ai longuement voulu venir, donc me voilà enfin. Donc,
on est
tous très contents.
Grave. Ton nom a été cité dans moult épisodes.
Quelques-uns, j'ai cru entendre.
Ouais. On sent que tu es une figure importante de cette industrie. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens avec qui tu as commencé. Et tu vois, pour qui ça a été fondateur, et ensuite chacun ou a pris son chemin, ou alors a continué d'évoluer ensemble, et du coup, c'est vrai que ton nom est ressorti souvent, donc on a hâte d'avoir ta version de l'histoire et ton histoire.
Bon, écoute, on sait que tu as écouté plusieurs épisodes, donc tu connais le format. L'idée, du coup, c'est que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, et on va dérouler ça tranquillement.
Donc on commence par quoi? Par la
le
naissance.
Berceau.
Le berceau. Où est-ce que tu es né?
Alors je suis né à Levallois-Perret dans le 92, je crois.
Ouais, un parisien.
Ah, un parisien.
Un banlieusard.
Ouais, Île-de-France, quoi. Ouais. Nous, on est des gens de province.
Ah,
Levallois-Perret,
oui,
c'est
oui,
c'est pas.
Il y a une grosse différence quand même entre les banlieusards et les parisiens.
Fair enough.
À plein de niveaux. Et ensuite, j'ai grandi principalement à Tremblay en France en 93.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est un vrai bon lieu, pour le coup.
C'est pas la même ambiance, Levallois et Tremblay.
N'est-ce pas, donc c'est moins parisien.
Dédicace à tous les mecs de Tremblay.
Il y en a beaucoup qui vous écoutent.
Je sais pas, mais
tu crois qu'il y a
j'en ai côtoyé quelques-uns.
De mon immeuble qui vous écoute, peut-être.
Peut-être.
Ce serait pas mal.
On espère.
Espérons. Et ensuite, quoi donc, je suis allé à l'école. Je ne me suis pas fait bully comme notre ami Iris. J'étais relativement, je vais pas dire populaire, mais relativement
cool
bien,
kid.
Quoi, ouais. J'avais
cool
une petite bande de potes.
Ouais.
J'étais un peu comme toi, un mec qui a des bonnes notes et qui travaille bien à l'école et tout ça. Donc ça s'est assez bien passé. J'étais dans un lycée privé, ce qui m'a un peu éloigné de mauvaises fréquentations et de toutes les tentations néfastes de...
D'argent facile.
Par exemple. Donc
pas
j'ai eu
facile.
Un parcours... Oui, facile en réalité, au début.
Au début, ouais.
En tout cas, ça en a l'air, non?
De l'extérieur.
Ouais. Et ensuite, j'ai fait une école d'art, Olivier de Serres.
Ok, donc t'as eu ton bac.
J'ai eu mon bac, tranquillou.
Easy.
Ah, j'ai eu quand même de la chance. En fait, après Olivier de Serres, j'ai fait Dupéret en mode et environnement.
Okay, cool.
Et c'était très cool. Et
c'est quoi Olivier
de Serres,
excuse-moi, mais je connais pas ça.
Olivier de Serres, c'est une école. Il y a 4 écoles nationales d'art appliqué. Il y a Dupéret, Olivier de Serres. Les autres, c'est.
Alors là.
Les deux autres, je ne m'en souviens pas vu que je ne les ai pas faites.
Ouais, okay. Bon, c'est pas grave.
Et voilà, c'est tout. J'étais en design.
Donc toi, tu voulais faire de l'art, t'es allé faire cette école pour quelle raison?
En fait, alors moi, j'ai toujours été intéressé par la mode et par l'art, mais j'étais aussi quand même dans une. J'étais dans une famille où c'était compréhensible, mais où on m'a pas vraiment. En fait, j'avais un père qui voulait absolument pas que je fasse ce genre de métier. Enfin, j'ai un père qui voulait pas que je fasse ce genre de métier. Et qui m'avait, je me souviens, il m'avait fait une liste de jobs.
Ok, c'est quoi la liste?
Il y avait, que des métiers genre médecin, avocat, et le métier le plus créatif, c'était genre architecte. Et à l'époque, j'étais en mode architecte, il y a beaucoup de mathématiques dedans quand même. Et j'étais en mode ok, d'accord. Et j'ai eu de la chance, en fait, il est journaliste. Et au moment de faire mes études, il est parti, il a eu une mission en Centrafrique, où malheureusement il est resté bloqué pendant 5 ans pendant la guerre.
Okay.
Donc il a vécu des trucs, lui, assez vénères. Mais moi, du coup, j'ai pu faire les études que je voulais, parce que du coup, j'avais... Enfin, quand il me demandait ce que je faisais, je lui disais, mais de la sociologie, papa. J'étudie les mathématiques, papa.
Et ta maman faisait quoi, elle travaillait?
Et ma mère, elle travaillait à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, où en gros son job c'est, à l'époque c'était de faire le lien entre les médecins et les besoins des malades. Et voilà, elle avait un job vachement intéressant. Elle est aussi beaucoup impliquée dans la vie politique de ma ville, de Tremblay en France, où elle a une association des femmes africaines de Tremblay, où Oh, elle est adjointe au maire, donc elle est très,
ah ouais, okay,
très politisée, très de gauche, très...
Ok, donc mes parcours académiques des parents déjà.
Grave.
C'est en un socle oui, spécial. Enfin, c'est pas tout le monde qui a grandi avec ce genre de...
Oui, non, c'est vrai que j'ai la chance aussi cool, que mon père, du coup... en fait, il était vachement intéressé aussi, vu qu'il était journaliste, par le milieu de l'art, de la mode. Il me ramenait tout le temps
ouais,
des magazines, il savait que ça m'intéressait. Donc, en fait, c'est bizarre parce que d'un côté... il me poussait à faire autre chose, mais d'un autre côté, il soutenait aussi ma passion. Ses parents avaient refusé qu'il fasse les Beaux-Arts, parce qu'ils avaient peur que ça l'emmène vers un chemin de vie déviant. Et c'est marrant parce que...
C'est pas la même génération aussi.
Oui, mais du coup, c'est marrant parce que, quelque part, c'est comme s'il m'avait poussé à faire ce que lui n'avait pas pu faire, tout en me réprimant de la même manière que ses parents, comme s'ils voulaient me mettre des sortes de, des difficultés pour vraiment faire ce que je veux. Donc c'était assez intéressant, je trouve.
Bah, c'est une manière de tester aussi, peut-être un peu, tu vois, de se dire, ok, est-ce que c'est un hobby, je mets vraiment des guillemets, et qu'en fait, il y a une carrière à côté qui va suivre, et c'est juste un intérêt, donc il a nourri ta curiosité, ou est-ce que ben, vraiment tu vas réussir à en faire un métier, une carrière, quelque chose dont tu arrives à vivre. Je pense que c'est un peu normal aussi de la part des parents de s'inquiéter de ça, tu vois, de la vie que vont avoir leurs enfants, tu vois.
Oui, parce qu'à côté, en même temps, il m'a aussi présenté, lorsque j'avais 17 ans, à une bande de personnes avec qui il traînait, où il y avait des stylistes, des maquilleurs, des coiffeurs, et beaucoup d'homosexuels, et je trouvais ça étrange, le fait qu'en même temps, ils soient en mode... il faut que tu aies une vie normale, Anna, que tu aies un job décent et qui fasse l'honneur de notre famille. Et qu'en même temps, il me poussait quand même à faire et à me réaliser tel que je voulais. Donc,
ouais.
Ton père, il est de quelle origine, du coup ?
Il est du Bénin et ma mère de la Martinique.
Ok, c'est un peu mélange.
C'est gentil.
Mais du coup, on parle de cette passion, tout ça, mais c'est quoi ton premier souvenir de mode, toi ? Comment elle vient, cette passion ? Tu te rappelles ?
Honnêtement, c'est mon père aussi, parce qu'il avait un style... En fait, il est très grand, très noir et très mince et très beau, en réalité. Et je me souviens que même quand il venait me chercher à l'école, dans des sortes de grands par-dessus noirs, avec des grands chapeaux...
Classe.
Ouais, il avait un style vraiment hyper intéressant et... Il se démarquait de toutes les autres personnes, donc j'étais
toujours marrant. Les tarots en PLS.
Je te jure.
Tu vois, wow, mon père, wow, la classe. Et à côté de ça, je sais qu'enfin, il a un goût qui est très sûr. Et du coup, comment dire ? À côté de ça, ma mère qui est antillaise et qui ont des goûts plus dans les couleurs,
très coloré,
dans des trucs très... là aussi, je voyais directement, j'ai vu tout de suite un contraste et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les deux m'influencent. Mais à l'époque, j'étais en mode, oh waouh, quelle élégance. Et genre, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup intéressé à la mode.
Ok.
Charmé. Donc, première école qui s'appelait, excuse-moi, j'ai.
Olivier de Serres.
Ok. Et donc là, ça se passe comment ?
C'était vraiment incroyable à plein de niveaux. De pouvoir, parce que j'étudiais le design textile, de pouvoir expérimenter le textile, d'être avec des personnes. Que ça intéresse de rencontrer des jeunes qui viennent de toute la France et qui ont cette même passion pour le tissu. En fait, ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'elle n'est pas vraiment axée mode, c'est que c'est des profils plus d'artistes qu'on retrouve là-bas. Et donc, c'était vraiment très expérimental et hyper intéressant. Mais à côté, ça a été aussi la première fois où je suis vraiment sorti de ma banlieue et où je me suis rendu compte que vraiment que je n'étais pas parisien. Et à la limite que je n'étais pas français, enfin, c'est étrange, mais les professeurs avaient une manière de me percevoir qui était très spécifique.
Mec de banlieue, ou...
Non, mais les questions qu'ils me posaient ou les choses qu'ils voulaient me faire rechercher, c'était toujours en rapport à mes origines, chose qui à l'époque... Enfin, quand on grandit en banlieue, on grandit dans un univers où tout le monde est d'origine différente. Et du coup, en fait, on apprend un peu de toutes les origines de tout le monde.
Ouais.
Et du coup, il y a des choses qu'on sait sur les autres qui sont un peu intrinsèques, qui sont un peu naturelles.
Complètement.
Et là, j'arrive dans un milieu pour qui je sens que genre, je suis un peu un extraterrestre. Et en gros, on ne sait pas si on doit m'associer à l'Afrique, si on doit m'associer à la banlieue, si on doit m'associer à ceci ou à cela. Et du coup, on guidait toujours mes recherches vers quelque chose qui, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais c'est après, lorsque j'analysais un peu mon passage dans ces écoles-là, où on me réduisait beaucoup à ma couleur de peau et à mes origines socio-ethniques.
Okay.
Donc c'était assez intéressant. Et enfin, il y avait une autre fille, peut-être que vous l'avez rencontrée, je ne sais pas, Stéphie Galvani, qui est notre styliste.
Oui, bien sûr. Donc, adore Stéphie, on était,
on était à l'école ensemble, on était à Olivier de Serre ensemble. Mmh. Et du coup, elle, qui est aussi antillaise, elle l'a vécu de manière beaucoup plus douloureuse, leur agression, micro-agression par rapport à ça. Et moi, à côté, genre, je me plaçais un peu en mode bon, peut-être que c'est comme ça, peut-être qu'en fait, ils demandent ça à tout le monde et peut-être que c'est normal. Et c'est juste après, lorsque j'ai un peu déconstruit le truc, que je me suis rendu compte que ça aurait pu être autrement.
Juste. Ouais, t'as une forme de fétichisation un peu, tu sens qu'on te bribe aussi d'une certaine manière. Comment tu t'en détaches de ça pour te dire, ok, en fait, j'ai le droit d'explorer tout ce que je veux, tu vois?
En fait, au final, c'est devenu vachement... Enfin, je trouve que de la contrainte, on peut toujours faire une force. Et au final, ça m'a forcé à me questionner sur mes différentes identités. Mmh. Et c'est devenu dans mon travail quelque chose que j'exploite énormément. Genre, je parle beaucoup d'identité raciale, d'identité sexuelle, d'identité de genre. Et du coup, je le vois pas forcément comme un point négatif. C'est juste quelque chose que je note.
Ouais.
En mode, ah,
ça s'est passé comme ça.
D'accord.
C'est comme ça qu'on voyait.
Donc là, tu fais un an, c'est ça?
Là, je fais 2 ans.
Ok. Et après, Dupéré.
Et après, Dupéré.
Quelle section?
Vraiment. Alors, design textile, non, c'était en mode et environnement.
Ouais. Okay.
Mais du coup, environnement de la mode, pas environnement les plantes et tout ça.
Les plantes et tout ça. Mec. Ah, putain.
Donc,
Europe écologie. Yeah. Europe,
non, c'était pas ça. C'était pas genre faire des robes avec des fleurs.
Ok.
Et là, vraiment, mais ça se, cette perception de moi se radicalise parce que c'est vraiment une école de mode. Mm-hmm. Les gens sont moins ouverts, j'ai l'impression, hein, c'est mon ressenti, sur l'art et sur tout ça. Et c'est vraiment des étudiants en mode tels qu'on peut le...
Enfin, un peu le cliché.
Un peu plus cliché, un chouïa plus. Et du coup, ouais, non, ça se passe pas hyper bien. Je sature vraiment qu'on me ressort toujours la question de mes origines. Et pourquoi tu ne parles pas de l'Afrique et machin et tout ça? Et j'étais en mode, mais les gars, ouais. Parce que je ne suis pas que ça. Mmh. Et je décroche un tout petit peu. Et surtout que c'est un moment où moi, j'ai besoin de travailler aussi à côté. Et où la majorité des gens qui sont dans la classe n'ont pas ce besoin-là. Et où du coup, en fait, je pense que aussi, peut-être que le système éducatif ne perçoit pas que ayant des origines sociales différentes, j'ai aussi d'autres besoins et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire comme les autres et que du coup, ouais, j'ai besoin de bosser juste en fait pour vivre. Genre, je peux pas juste venir en cours et me concentrer uniquement sur ça. Donc, j'ai un emploi du temps qui est différent et à côté, en même temps, je commence à après ma première année à Dupéré, je fais un stage qui se passe hyper bien au One Magazine. Et du coup, eux, ils commencent à me faire bosser aussi un petit peu et à me faire réaliser un peu... Enfin, sortir de l'école, parce qu'il y a un moment où ce truc hyper académique ne te permet pas forcément
d'expérimenter, ouais, d'expérimenter le vrai côté exactement. De le vrai milieu de la mode, quoi.
Ouais, et du coup, je crois que j'ai fini quand même les 2 années, mais que je suis même pas allé à la remise de diplôme, que je n'ai pas eu. Okay. Et du coup...
Comment je veux bien que tu nous parles un peu du WAD et comment tu te retrouves là-bas. C'est grâce à Brice, c'est grâce à...
Alors, le WAD, comment ça s'est passé? J'ai envoyé... alors, je cherchais un stage. Ah oui, il faut savoir que en design textile, j'ai jamais trouvé de stage. Alors que, genre, j'étais vraiment bon. J'étais vraiment, vraiment bon. Et les profs me le disaient beaucoup. On m'appelait le roi de la maille ou ce genre de truc dans la classe parce que je kiffais ça et j'étais vraiment à fond dedans. Mais dès que j'avais dès qu'on me proposait un stage et que j'allais là-bas et que je voyais toutes ces petites filles blanches, toutes mignonnettes et tout, et qui me voyaient arriver, bonjour, non, je sentais quand même, regardais que genre, que ça passait pas. C'est à ce moment-là aussi, honnêtement, genre, il y a un moment où ça m'avait vraiment frustré et où j'ai changé mon nom de famille. Je me suis mis à utiliser le nom de famille de ma mère, qui a moins de connotation africaine que celui de mon père. Mmh. Et du coup, j'arrivais à aller en entretien, mais dès qu'on me voyait, on me calculait pas et on me disait « c'est mort », en gros.
Mais
ou
quoi?
On me disait « ah, mais en fait, on recherche personne », ou ce genre de choses.
Ah,
on a déjà trouvé, on vient de trouver.
J'ai personne juste avant toi.
Putain, mais ça, c'était quoi? C'était dans les ateliers, c'est ça?
Ça, c'était dans les ateliers, ouais. Genre, j'ai pas passé le... J'ai jamais trouvé de stage, et c'est aussi pour ça que je me suis rédigé, que je me dis « bon, peut-être qu'il faut que je voie plus large. » Et j'ai commencé à regarder dans la presse. Et le WAD, à l'époque, c'était le seul magazine où les minorités étaient visibles, ouais. Et du coup, genre, ils m'ont laissé ma chance et j'étais trop, trop content de pouvoir commencer à faire quelque chose dans ce milieu-là.
Ils ont fait énormément pour la culture. Hein.
Ah, mais de ouf. De ouf.
Bien et avant du... tout le monde, bien avant que ça soit obligatoire.
Oui, après, genre... Enfin, je pense qu'ils l'ont aussi fait pour leur raison, genre ils étaient aussi gagnants dans le truc, mais moi je suis quand même vachement content d'être passé par là.
Donc t'envoies une lettre de stage et boum ça... Direct.
J'envoie une lettre de stage, je rencontre à l'époque Charlotte Moreau, je ne sais pas si elle est encore styliste, ou je ne sais pas ce qu'elle devient, mais bon. Et j'ai commencé à l'assister et c'était vraiment génial d'être dans un endroit où il y a juste plein de gens d'origines différentes qui expriment leur créativité, qui font des choses. Il n'y avait pas d'argent.
Ouais, ça,
il n'y avait pas d'argent.
Mais c'était un vrai upgrade.
Mais c'était vraiment cool pour l'époque, donc j'étais très content.
Mais là, tu découvres le métier de styliste image, enfin styliste photo, tout ça ou... Ok. C'est lors de cette expérience-là que tu dis « Ah, ça, c'est un métier ».
Exactement. C'est vrai qu'avant, j'avais même pas conscience... En fait, quand ils m'ont pris, je savais vraiment pas ce que j'allais faire là-bas.
Okay.
Et quand ils m'ont dit que j'allais assister une styliste, je me suis dit « Bah, très bien.
Cool.
Ça me va, on verra ce que c'est ». Et vraiment, c'est sur le tard que j'ai découvert ce job.
Ok. Yep.
Et du coup, là, t'étais avec Iris qu'on a reçu ici.
Non, là, j'étais pas encore avec Iris. Okay. Iris, elle est arrivée quelques années après. Du coup, j'ai assisté pendant quelques années. En même temps que j'assistais, j'étais aussi à l'école. Enfin, parce qu'après le stage, du coup, j'ai continué à y aller, j'ai continué à faire des missions. Et au bout de peut-être un an, ils commencent à me laisser mes propres séries.
Okay.
Le fashion directeur de l'époque part et est remplacé par Jean-Paul Pola.
Ouais.
Et là, c'était vraiment une époque incroyable. Parce que quand Jean-Paul arrive à Paris et arrive au WAD et avec toute sa créativité, toute sa folie,
c'est
toute
quoi,
son
tout
ambition,
ça
ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Oh, bonne mémoire. Très bien. Genre, et que je commence à l'assister. Pour moi, c'était vraiment des années extraordinaires. Ouais. Et du coup, je monte un petit peu au WAD. Je deviens styliste un peu régulier. Je commence à travailler pour d'autres magazines, pour des artistes, et ça a un peu commencé comme ça.
Donc t'es en kiff là.
Donc là,
tu dis j'ai trouvé ma voie quoi.
Je kiffe ma vie, mais en même temps, je finis l'école et c'est très dur de se dire qu'on fait quelque chose qu'on adore et pour lequel on sent que c'est notre voie, mais en même temps qui ne rapporte pas un copec. Ouais. Et du coup, c'est des années en même temps très difficiles. Le WAD, ils avaient une économie qui était très étrange, enfin dans le sens d'une manière de gérer leur budget, on va dire un peu années 90, un peu années 80, où les boss sont des rockstars et partent à Ibiza toutes les semaines, mais où du coup, le styliste est payé une misère pendant très longtemps. Donc c'était assez frustrant. Et en même temps, Brice, qui a aussi une boîte de casting office, de temps en temps, genre quand il sentait, je pense qu'on était vraiment au bout du rouleau.
Il envoyait un petit chèque.
Ouais, non, il nous envoyait faire des petits jobs de mannequin pour des petites marques ou des petits trucs. Donc il y avait quand même de l'argent qui rentrait de temps en temps. Donc il y a des moments où on soufflait, mais genre c'était quand même dur et frustrant en même temps que c'était épanouissant et génial.
Et formateur.
Mais je pense que quand t'es jeune, tu l'acceptes plus facilement, ça, non? Tes premières années.
En fait, c'est surtout que j'avais pas conscience de l'argent qu'on peut se faire en tant que styliste.
Oui, c'est ça aussi.
Je pense que vraiment, je me rendais pas compte qu'on pouvait vraiment bien vivre avec ce métier. Et que pour moi, c'était vraiment un truc qui me passionnait. Et je me disais que c'était suffisant.
Oui, c'est ça.
Je serais sûrement pauvre toute ma vie, mais qu'au moins, je ferais un job que j'aime.
Ouais. Du coup, là, t'as le petit discours de ton père qui revient un peu.
Ouais,
tu dis
merde, ouais.
L'architecte, c'était pas mal, en fait.
Ouais, il y a des moments où, genre, du coup, où je doutais beaucoup. Et surtout que, enfin bref, j'étais dans une relation avec une personne qui avait aussi voulu faire ça. Mais qui à un moment n'avait plus pu vivre du coup de sa passion, qui avait trouvé un job alimentaire,
ouais.
Et qui me disait tout le temps non mais arrête tes conneries, tu te feras jamais d'argent, viens bosser chez Zara. Et du coup c'était un peu en mode, enfin à chaque série qui sortait d'un peu bien, j'étais en mode mais regarde c'est beau ce que je fais, non ça t'a rapporté combien? Zéro. Donc c'était un peu une période compliquée,
ouais.
Où honnêtement genre je me suis aussi retrouvé à... Enfin, je me suis retrouvé du coup à faire des choses que j'avais pas faites avant et à consommer des... Enfin, je trouve que c'est un truc dont il faut quand même parler. À consommer des drogues qui m'ont permis de... Enfin, c'était rien de ouf, je me suis juste mis à fumer de la beuh, mais Mais ça m'a permis à ce moment-là de genre juste souffler, de pas penser à tous ces problèmes et au fait que genre j'approchais la trentaine et que j'habitais encore chez mes parents. Mmh. C'est chiant quand même à 29 ans de
bien sûr.
De devoir rentrer dans sa banlieue à Tremblay-en-France tous les soirs et quand on a un job qui se finit à 1h du matin, de devoir prendre un bus de nuit pour rentrer chez soi,
c'est compliqué.
Frustrant quand on approche la trentaine.
Mais donc, voilà. Du coup, avec le recul, toi, c'est quoi ton conseil? C'est de dire aux jeunes qui commencent dans le métier, bah ça va être dur quelques années, mais ensuite, t'inquiète, ça peut décoller. Ou alors, est-ce que t'as un conseil? Je sais pas.
Je pense que quand c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je pense qu'en fait, j'aurais été prêt à vivre pauvrement de ma passion, au final,
pendant un petit moment.
Encore bien longtemps. Et peut-être même toute ma vie, parce que je kiffais vraiment ce que je faisais.
Mmh. C'est ça qui te faisait tenir? C'est la passion qui t'a fait tenir tous ces années?
Ouais, c'est le fait que je kiffais de ouf ce que je faisais, que je pensais vraiment que ça pouvait arriver quelque part, qu'au final, je croyais plus en moi que ce qui...
Bah oui, bien sûr.
Que
les autres.
Voilà.
C'est la base, hein.
Bien sûr.
Mmh. Donc je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, à la jeunesse, c'est ouais, de savoir ce qu'ils veulent vraiment et ce qui les motive vraiment. Et c'est sûr que si c'est un métier qu'on... Mais en même temps, on peut faire tellement de thunes avec ce job. Et ça aussi, ouais, j'en avais pas conscience. Donc, c'est... ouais, accrochez-vous si ça vous plaît vraiment. Et voilà.
Si vous êtes talentueux aussi.
Le talent, c'est
la
beaucoup
base.
De travail.
C'est
aussi,
juste
je pense.
La base et le travail, bien sûr.
Parce que j'ai l'impression que le talent, il peut venir... Enfin, il y a beaucoup de gens pas très talentueux qui font des belles carrières, très honnêtement.
C'est clair.
Avoir un peu de réseau, avoir un peu de chance, avoir...
bien sûr,
les contacts. Une tête qui plaît, avoir... Il y a plein de choses qui peuvent jouer autre que le talent à réussir.
La connexion avec la marque qui t'aide à sortir des pièces plus facilement.
Ouais, mais ça, c'est aussi des choses qui se travaillent, j'ai l'impression, et qui... je pense que le talent, c'est une partie... genre, c'est peut-être 40% du truc, quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais nous, on insiste toujours beaucoup sur ces valeurs-là, de travail, de patience.
Ouais, le travail, pour moi, c'est tout.
De respect des gens aussi, parce que c'est comme ça que tu crées ton réseau et que tu ensuite noues des relations.
Il y a aussi plein de gens qui respectent pas les gens et qui font des belles carrières, n'est-ce pas ?
Ça, c'est vrai.
Ouais, malheureusement, c'est aussi un peu ce que l'industrie, elle laisse passer, ce qu'elle véhicule comme... Il y a des choses qui sont OK dans notre industrie, qui seraient, moi, venant de la musique et venant, pour le coup, du rap, il y a des attitudes que, encore aujourd'hui, je ne comprends pas, parce qu'elles ne passeraient dans aucune autre industrie. Mm-hmm. De manque de respect, de manière de parler des gens. En fait, moi, mon truc, c'est que je pense que quand il n'y a pas de répercussion, quelle qu'elle soit, à une mauvaise attitude... Bah en fait, c'est comme des enfants capricieux, tu vois, à aucun moment tu vas être sanctionné, donc bon, bah tu parles mal, jusqu'à ce que t'aies vraiment le bad buzz, truc, et là, ah oui, non, mais j'étais sous pression, mais excusez-moi, de trucs. Mais il y a plein de comportements qu'on sait tous qui sont inadmissibles et qui continuent d'être.
Mais est-ce qu'il n'y a pas ça dans tous les milieux? Parce que honnêtement, je travaille aussi avec beaucoup d'artistes. Mm-hmm. Et j'ai travaillé avec des artistes pas très faciles.
J'ai pas dit que les artistes étaient faciles. J'ai pas
dans
dit que
le
les
monde
artistes
du rap, c'est-à-dire genre dans la prod ou dans le...
Dans tout. Bah, moi, je sais que si par exemple quelqu'un... Oui, il y a toujours ce truc de l'artiste, c'est le roi, et il peut mal parler au truc parce que c'est l'artiste.
Il y a aussi le truc du manager un petit peu... qui se prend un peu pour une resta, ouais. et qui s'autorise aussi des choses. Enfin, j'imagine que dans la banque aussi, ou dans la finance, j'ai l'impression que dans tous les milieux, au final, il y a des passe-droits aux personnes
en place
qui ont un plus
de
pouvoir.
Ouais. Peut-être, ouais, je sais pas. Moi, je sais que, en tout cas, j'ai connu des situations où si tu parlais mal, tu risquais d'avoir des répercussions, mais après, c'était peut-être une autre époque. Hein. Peut-être
ça dépend toujours à qui tu parles, en fait. Ça passe jusqu'à ce que tu parles mal de la mauvaise personne.
Ouais, c'est ça, en fait.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vu des gens très haut placés se prendre des gros coups de pression. Hein. Mm-hmm. Après, je sais pas. Bon.
Dans tous les cas, on est là pour donner des conseils positifs.
Non, mais c'est bien, t'es la première personne qui parle un peu de ça depuis tous les épisodes. Et c'est vrai que les gens en parlent peu et que tu peux avoir des expériences qui sont compliquées en tant que styliste, avec, en tant qu'assistant, en tant que... tu vois.
Moi, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai assisté peu de personnes, mais que des personnes, du coup... Jean-Paul Pola, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a beaucoup appris. Je faisais beaucoup d'erreurs au début. Il était vraiment patient. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une sorte de bienveillance envers. Et il a jamais été. J'ai l'impression qu'il y a tellement de concurrence dans ce milieu que beaucoup de stylistes se méfient de leur assistant. Mm-hmm. Là où lui, il m'a facilement donné des jobs, mis sur des jobs.
C'est le mental, ça.
Donc, ouais.
Ouais. Parce que ce week-end, justement, j'étais avec une styliste qui racontait qu'elle a été assistante d'une très grande styliste pendant des années. Mm-hmm. Et qu'après tout ce qu'elle a fait pour elle, elle a juste demandé de pouvoir faire un peu des trucs enfin des jobs pour un peu mieux gagner sa vie ou juste faire des éditos. Et on lui a dit non, tu vois.
Ouais, mais c'est parce qu'on est régi par la peur aussi dans ce milieu.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis ça.
C'est l'un des seuls milieux où, enfin, on peut pas choisir de travailler. C'est pas on se lève un matin et on se dit, ah tiens, j'ai envie de vraiment beaucoup bosser cette semaine et ça va se passer. C'est les gens qui choisissent qu'on travaille ou pas. C'est les gens qui nous bookent, c'est les gens qui, par rapport à notre code, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à les autres personnes avec qui on travaille, vont avoir envie de vous donner du travail. On peut pas se lever un matin et dire, cette semaine, je vais bosser énormément. On est booké par d'autres personnes.
Bien sûr.
Donc en fait, vu que c'est et aussi, il y a pas de, on n'est pas, enfin, entre stylistes, on travaille jamais ensemble. Donc on se connaît pas vraiment, donc il y a une sorte de concurrence en fait entre chacun. Mmh. Chacun regarde ce que l'autre fait. Un mois on va travailler un peu moins, on va se dire ah merde, ma carrière c'est la fin. Et en fait on est tellement régi par la peur que et on est tellement pas ensemble que du coup moi je peux totalement comprendre qu'une styliste si son assistante elle monte, elle se dit ah mais en fait elle va me prendre tous mes jobs et j'aurai plus jamais rien et c'est le début de la fin. Donc je trouve ça quand même enfin, c'est compliqué et c'est dur aussi de juger les personnes qui ont cette mentalité-là parce que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence.
Mmh. C'est intéressant cette question de cycle. Tu vois, moi de l'extérieur, j'arrive pas à me faire une idée de une carrière de n'importe quoi, tu vois. Make-up artiste, hairstylist, styliste, peu importe. Enfin, tu vois, ce genre de métier-là, même de photographe, parfois je me dis, mais comment tu fais tenir une carrière sur 20-30 ans, tu vois ? Parce que je vois mes copains, moi je viens d'un truc beaucoup plus académique, pro, tu vois, enfin pas du tout les métiers de l'art. Mmh. Et parfois je regrette, je me dis, mais putain, si j'avais été juste avocate, au moins tu vois, tu signes ton truc, tu passes le barreau, tu sais que pendant 50 ans t'es tout droit, tu vois. Là, je me dis, putain, tous les jours tu te réveilles, tu remets ta carrière en question, tu te dis combien de temps ça va durer, qu'est-ce que je fais après. C'est quoi ta vision du truc, toi? C'est quoi le cycle que tu...
Moi, je pense qu'il faut rester curieux,
ouais.
Faut rester passionné, faut... Faut se tenir au courant de ce qui se fait, faut rester un peu dans l'actualité et il faut, ouais, faut juste continuer à nourrir sa créativité, à chercher un peu tout le temps de nouveaux jobs, de nouveaux clients, de nouveaux... Je pense que faut jamais se reposer sur ses lauriers.
C'est peut-être clair.
Ouais, le meilleur conseil que je puisse donner.
Bon, cool. Allez, on rewind. Du coup, Wad, tu continues, tu travailles avec Jean-Paul Pola.
Travaille avec Jean-Paul Pola, ça se passe hyper bien. Je commence à faire quelques jobs commerciaux, donc je suis un peu content. Mais c'est pas très bon, c'est la vie. Mm-hmm. Donc, le vrai déclic, et c'est aussi un truc qui m'a beaucoup frustré en tant que personne racisée. Il y a un moment où vraiment il y a quelque chose qui se passe. Où je commence à faire de plus en plus de jobs éditoriaux intéressants et où ma carrière à ce niveau-là, elle monte, mais où commercialement, je book presque rien.
Okay.
Et où du coup, c'est encore plus frustrant d'avoir une image et un nom où les gens me connaissent, reconnaissent mon travail, mais où je fais toujours très peu d'argent. Et ma validation, elle s'est faite par plusieurs étapes. D'abord, mon travail tape dans l'œil d'un... J'ai toujours été fan de Riccardo Tisci. Et j'étais à un moment de ma carrière où on me prêtait pas encore de Givenchy. Ok. Donc, sa dernière année, il a fait une collection, en fait, qui retraçait un peu les 10 ans de sa carrière et où il avait fait un look de chaque saison en rouge. Et c'est le moment où, en fait, où l'attaché de presse commence à me dire, ah, tiens, en fait, c'est pas si mal ce que tu fais, on peut te prêter des trucs. Donc moi j'étais un peu comme un fou et j'en ai mis un peu partout, j'en ai shooté dans, à chaque fois que je pouvais, il y avait au moins un ou deux looks Givenchy parce que genre c'était vraiment un designer que je kiffais de
iconique.
Ouf vraiment, et en plus qui a fait tellement pour la culture, qui a commencé à caster des personnes racisées, qui a mis le streetwear à l'honneur 100%. Dans ses créations et
il a ouvert la voie pour beaucoup de personnes
tellement, et du coup genre j'en mets un peu partout et il y a un édito qui pourtant était ce que j'appelle un pain perdu. Ce que j'appelle les campeurs du ciel. C'est lorsqu'en fait on a des fringues pour un magazine ou pour un artiste.
Ouais.
Et qu'en fait on est tellement excité d'avoir des fringues qu'on appelle un ami photographe ou quelque chose. Qu'on dit si on refaisait un autre shoot, si on faisait un truc en plus pour pouvoir avoir plus d'images avec des fringues un peu, avec des bons looks.
Okay.
Donc un pain perdu comme ça que je fais avec un ami photographe, Stéphane Gaboué, qui fait aussi du casting, fait plein de trucs. Bref. Et en fait, il y a deux images dedans qui ont vraiment tapé dans l'œil de Riccardo. Et une fois que c'est sorti, parce qu'on l'a quand même publié dans un petit magazine truc, je reçois un appel de lui qui me dit « Ah, ciao, c'est Ricardo
!» Avec l'accent, j'adore.
Je suis en mode « Ah ouais, mais que se passe-t-il » J'ai vu cette photo qui est parue dans machin truc. C'est l'image la plus élégante de la saison. Je suis en mode « Oh, waouh !» Et genre, du coup, il me dit « Ah, c'est vraiment incroyable !» Je vais arrêter l'accent. Il est en mode « Ok, non, c'est vraiment incroyable. Genre, c'est trop beau. Entre, pour moi, les deux images, les meilleures de la saison qu'on a fait avec... avec mes créations, c'était ça et un truc de Karen Rothfeld. Déjà, ça me met un niveau. Et il me dit, c'est vraiment très chic. Et en fait, c'est un compliment que je recevais vraiment rarement parce qu'on m'associait toujours, quoi que je fasse, au streetwear ou à quelque chose de... Et du coup, ah ça ouais. me touche vraiment. Je suis en mode, oh waouh, enfin, une personne qui perçoit ce que je fais. Oui, et qui comprend un peu ce que j'essaye de transmettre et qui me réduit pas à... qui me réduit pas à ce à quoi on m'avait réduit auparavant. Donc tout d'un coup, moi déjà, ça me donne un petit boost de confiance.
Bien sûr.
Ensuite, ensuite je sors avec une personne blanche et qui est très, qui a, comment dire...
Tu sors, c'est-à-dire relation
Relation.
Ah, okay, ouais.
Je sors avec une personne blanche qui est très bien dans le milieu de la mode et de l'art. Mm-hmm. Et qui a des connexions. Mmh. Et là, ça a été le vrai déclic. Et ce qui était marrant, c'est que genre, je commence à vraiment faire des trucs intéressants et tout ça. Mais là, cette personne-là me présente du coup à mon agent d'aujourd'hui. Mmh. Et je sais que si j'étais juste allé avec mon book dans cette agence ou que je l'avais envoyé par mail ou tout ça, on m'aurait pas pris au sérieux et on m'aurait pas calculé. Mmh. Et en fait, là, à ce moment-là, lorsqu'il me dit « Ah tiens, faut absolument que tu rencontres mon ami... Justinian, de Total, machin truc. Je suis en mode, au début, j'ai pas voulu parce que j'avais pas envie, mais là aussi, Ricardo m'a beaucoup aidé par rapport à ça. J'avais pas envie qu'on me valide pour les mauvaises raisons et je voulais vraiment, j'étais un peu intègre et je voulais qu'on me valide par rapport à mon travail. Et le fait que ça passe par, par un autre biais, par le réseau à l'époque, genre, ça me frustrait énormément. Et c'est une discussion que j'ai eue après avec Ricardo quand je lui ai parlé de ça et qui m'a dit « Mais en fait, tu sais, tout le monde arrive ici avec des points positifs et des points négatifs, avec des choses qui les aident, avec des choses qui les desservent. Mais en fait, il ne faut pas que tu te poses ces questions parce que tu te les poses parce que tu viens d'un certain milieu et tandis que des personnes qui viennent d'un milieu plus privilégié ne se les poseront jamais. »
Bien sûr.
Et donc, du coup, ça m'a décomplexé par rapport à ça. Mais sur le moment, ça me frustre d'être validé pour moi, pour des raisons qui sont superficielles. Mais en même temps, je pense que c'est ce qu'on fait des opportunités qui est important, parce qu'au final, et vu que je pense que j'ai quand même réussi à marquer l'essai, et qu'une fois arrivé chez Total, j'ai quand même bossé énormément, ma carrière a vraiment...
Connaissant Justinian, je veux dire, si t'as signé, si t'avais rien fait, il t'aurait vite montré la porte.
Effectivement.
Enfin, j'adore Justinian, hein, mais c'est un... C'est un jobber, ça rigole pas. Quoi.
Mais a raison.
Peut-être
qu'il
t'aurait donné une chance, mais si t'avais pas transformé derrière, tu serais pas là-bas et tu aurais pas eu la carrière que t'as eu depuis. Yes. Quoi.
Yes, mais quand même, c'est aussi pour dire aux gens que genre, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le talent. Il y a parfois une dose de chance, il y a parfois une dose de connexion, il y a une dose de s'accrocher et de tout transformer, de marquer chaque essai. N'est-ce pas?
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est surtout intéressant ce que tu dis, qu'en fait, quand t'as pas forcément ces codes de trucs de... pas piston, mais pour pas parler vulgairement, mais tu vois, de connexion, de réseau et tout, tu as tendance à te dire, mais attends, pourquoi on le fait? Pourquoi on me le fait à moi, machin? Alors qu'en effet, il y a des gens qui font des carrières et qui vivent leur vie comme ça, de manière permanente, tu vois.
Bien sûr, et même toi, enfin, tu vois, toi qui as fait Sciences Po, enfin, il y a plein d'écoles, ils te vendent au-delà des cours, ils te vendent le réseau que tu vas avoir derrière. C'est un peu le business model. Donc,
mais
en fait,
moi,
nous, on en a
pas, je l'ai pas compris, moi. Je l'ai pas compris. Je le comprends maintenant. Je me dis, ah ouais, en fait, j'ai pas joué le jeu, tu vois.
Ah, mais surtout, c'est vrai, les écoles de commerce, ils disent, ouais, après, vous aurez accès à tel gens qui étaient avec nous. Donc, en vrai, il n'y a pas de
pourquoi,
à
ton avis, t'as pas joué le jeu?
Parce que je suis trop très 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 franche, moi, très intègre comme tu dis. Donc si je t'aime pas, je t'aime pas. C'est un gros défaut en réalité. Mais bon, je suis comme ça. Et je le changerai plus maintenant, je pense. Mais j'avais ce truc de je vais pas me forcer en fait. Je vois pas les gens pour ce qu'ils peuvent m'apporter ou alors par intérêt, tu vois. Et je pense que c'est un regret que j'ai parce qu'en fait, c'est pour ça que sont faites ces écoles. Mmh. On te met un carnet d'adresses à disposition, on te permet de vivre certaines expériences, de rencontrer telle et telle personne. Et c'est comme ça que tu prends l'ascenseur social, en fait, tu vois. Et moi, je ne l'ai pas du tout vu comme ça. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai rencontré les gens que je devais rencontrer et j'ai noué des amitiés avec les gens avec qui c'était sincère. Donc dans le tas, il y a nécessairement des gens qui viennent de familles de XY, tu vois. Il y a forcément eu aussi par ce biais-là une ouverture sociale parce que j'ai rencontré des gens, que je les aime ou que je les aime pas. Peu importe, ils étaient là et du coup, j'ai vu d'autres choses. Mais j'ai vraiment pas joué le jeu, quoi. Mmh. Tu vois, j'ai pas été aux soirées, j'ai pas été dans le truc de BDE, de machin.
Mais moi, j'ai l'impression que genre, c'est ne pas jouer le jeu, c'est aussi... Enfin, sur le long terme, c'est payant. Parce ouais. que moi, toutes les personnes qui m'ont été présentées ou introduites et qui correspondaient pas à mes valeurs, même dans le milieu du travail, ou toutes les personnes avec qui ça s'est mal passé sur un job, je suis très content au final que oui. ça s'est mal passé d'avoir montré un peu mon vrai visage, parce que j'ai l'impression qu'ensuite, ces personnes, elles vous amènent d'autres personnes qui sont similaires.
Complètement.
Et que quelque part, si on commence à mentir ou à se forcer dans une certaine voie ou avec des gens... En fait, on sera forcé de le faire avec le reste de nos relations. Tandis que si on choisit des gens par rapport à nos valeurs, à nos ambitions, à ce qu'on veut vraiment et tout ça, au final, on passe de bons moments. 100%. On n'a pas besoin de se transformer en styliste énervé et méchant. Parce
et
que,
gris.
Et aigri, parce qu'au final, on bosse qu'avec des gens. Moi, genre, j'ai trop de chance
non, je suis d'accord.
que dans mon milieu, il y a un moment où ça s'est mal passé avec le WAD et où ils m'ont viré. Et en fait, il y a une personne qui m'assistait là-bas à ce moment-là, qui est Kenny Germain, et qui à ce moment-là m'a dit bah, « En fait, je pars avec toi ». Et j'étais en mode « Oh, waouh ». Et du coup, on a tout recommencé de zéro.
Vous avez créé un vrai duo pour le coup.
Ouais, mais ça s'est fait parce qu'il croyait aussi vraiment en moi et que c'était honnête. Et il a commencé en m'assistant. Et ensuite, il a commencé à faire de la photo. Et là, il cartonne. Il est aussi signé chez Total. Et genre... au final, genre, le fait que j'ai pu me lier avec lui et que ce soit une personne qui était aussi un ami, ça a fait que genre, on a développé quelque chose qui était plus vrai que si j'avais juste essayé de connecter avec des photographes cool du moment.
100%.
Donc, ouais.
Non, mais ça, je te rejoins complètement là-dessus. Mais c'est ce que je te disais un peu hors antenne tout à l'heure. C'est que je pense que quand t'as une espèce de dureté ou en tout cas une exigence d'intégrité, juste d'alignement avec toi, tu peux paraître dur et tout, mais quand tu brises un peu la carapace ou quand tu acceptes de trahir à certaines personnes, en tout cas, ça crée des choses qui sont vraiment belles.
Ah, je suis d'accord.
Et qui sont sincères, du coup, qui perdurent. Enfin, tu vois, après, c'est un cercle vertueux.
Ok, cool. Bon, on repart. Allez, let's go. Donc, tu signes chez Total avec Justinian.
Tu signes chez Total.
Là, il y a une petite accélération quand même, parce que la validation par le milieu d'être dans une grosse agence avec d'autres noms, ça te met aussi sur la map.
Bah déjà, je me rends compte qu'on peut vraiment faire de l'argent avec ce job-là. Et genre, juste ma situation financière, elle change du tout au tout. Et pareil, au début, par rapport au milieu d'où je viens et tout ça, genre, je suis un peu en mode... je trouve ça un peu trop. Parce que j'arrive pas à un niveau non plus... je fais pas partie des stylistes les mieux payés de Paname, même si c'était mon nom sur Instagram pendant un moment. Parce que genre, j'étais juste choqué. Mais juste, genre, je me rends compte que je peux faire, enfin, un styliste peut faire, hein, ou un photographe peut faire en un mois ce que des gens font en un an. Et, et c'est un peu, genre, je suis un peu sous le choc. Mais en même temps, genre, je rencontre aussi, j'ai l'opportunité de shooter avec des photographes qui m'auraient pas qu'à là sinon, de shooter pour des magazines qui m'auraient pas regardé sinon. Et du coup, genre, ça donne un gros boost à ma carrière. Et en plus, vu que ça se lit, enfin, ça se passe un tout petit peu après le moment Ricardo. Donc, ça me permet aussi, genre, quand Ricardo arrive chez Burberry, bah, j'ai un petit peu quelque chose à lui montrer. En mode, je suis pas juste le mec qui faisait des idées tout cool. Et il peut me booker sur des jobs plus intéressants. Donc, ça a été un vrai, le vrai début de ma carrière. Enfin, le moment où j'ai pu vraiment m'épanouir et.
Faire un step up, quoi.
Et faire un vrai step up, ouais. Autant professionnellement que financièrement.
Tu te sens peut-être un peu moins seul aussi, non, quand tu commences à être accompagné, que tu vois que tu as un peu plus d'entrants aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le truc de se dire, ok, bah, tous les matins je me lève, on m'appelle pour travailler, tu vois. Et quand tu as un agent, j'ai l'impression que tu es un tout petit peu plus sécurisé, dans le sens où tu as quelqu'un avec qui échanger là-dessus.
Exactement, mais en même temps, je pense qu'en tant que personne racisée dans ce milieu, je constate aussi que je suis toujours une sorte d'exception. Et c'est toujours un peu frustrant d'arriver sur un set où... disons que les jobs que je construis moi-même, je peux à peu près choisir les équipes et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de diversité. Mais quand on arrive sur un set ou qu'on bosse pour quelqu'un et qu'on a l'impression qu'on est le faire-valoir de la minorité de service et tout ça, c'est aussi un peu frustrant. Donc, en même temps, genre, je me rends compte que ma situation à moi évolue, mais je me rends compte aussi de l'impact que je peux avoir et de la responsabilité, désolé, je parlais pas dans le micro, et de la responsabilité que j'ai en tant que minorité qui, entre guillemets, a percé. Quelque part, j'ai l'impression que ça m'a un peu responsabilisé à ce niveau-là.
Est-ce que toi, tu le vis comment le moment Black Lives Matter? Parce que c'est vrai que ça a été un moment, donc un mouvement mondial pour le coup, mais qui a eu beaucoup d'impact dans le monde de la mode.
Ben, pour nous, ça a été une aubaine. Hein. Ouais. Très honnêtement, genre, c'est le moment où j'ai le plus bossé, c'est le moment où vraiment j'avais l'impression que genre ma carrière pouvait atteindre des sommets. Et c'est après coup qu'on se rend compte qu'on a un peu été traité comme une tendance et que beaucoup de gens en fait ne faisaient que suivre le mouvement. Ce moment où toutes les marques ont mis sur leur Instagram les trois carrés noirs alors qu'avant elles shootaient jamais de personne ou peut-être un asiatique de temps en temps. Ce moment-là et où ensuite en fait on a vu un vrai changement dans le casting. Moi je trouve ça intéressant, mais ce qui a vraiment été intéressant, c'est quand même les équipes ont commencé aussi à évoluer et où on se rend compte qu'ils ont commencé à booker et des photographes et des stylistes et des maquilleurs et coiffeurs racisés, mais c'est un effet qui s'essouffle un petit peu ces dernières années. Vous voyez quand on est les miniers, c'est ça, qui descendent dans des mines avec petits oiseaux ils attendent que l'oiseau cri-cri ou piaille pour se rendre compte pour voilà, exactement.
D'oxygène.
Pour moi, un peu, mes oiseaux, c'est mes assistants. Parce qu'ils commencent un peu à bosser, ils commencent à avoir des carrières et j'ai beaucoup d'assistants racisés.
Ouais.
Et ces deux dernières années, genre, beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils travaillaient moins, qu'ils travaillaient moins que les années d'avant. Et c'est là où je constate qu'il y a un petit peu un retour en arrière à ce niveau-là.
Ouais, même au casting, on le sent. Un vrai, vrai retour en arrière. Mais bon, il faut continuer de se fighter. Hein.
Oui, bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est que tant qu'on sera traité comme des tendance, parce qu'une tendance, elle est faite pour se démoder.
Complètement.
Donc, si à un moment on est à la mode, ça veut dire qu'à un moment on sera plus à la mode. Donc, en fait, il faut juste, pour moi, normaliser de nouveaux comportements et faire évoluer les mentalités en profondeur. Mais est-ce que c'est possible de parce qu'au final, les élites, elles sont toujours. c'est toujours les mêmes, non?
Ouais, il y a une histoire d'élite et je pense que la mode, elle est profondément aussi ancrée sur un rythme cyclique. Tu vois, donc quoi que tu fasses, si la tendance, elle n'est pas à cette tendance-là bien précise, tu le vois avec les corps. Tu vois, là, on revient à la mode du corps Kate Moss, des skinny, etc. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux engager une tonne de gens sur set. Tu peux mettre la CEO de n'importe quelle marque en surpoids. Si la tendance, c'est la tendance, c'est comme ça. Tu vois, ça ne va rien changer, en fait, dans l'image.
J'entends, mais j'ai l'impression, enfin, le fait que j'ai aussi beaucoup d'assistants très jeunes autour de moi, que ce qu'on leur a inculqué à eux ces dernières années, ça va être très difficile d'avoir un retour en arrière et que peut-être que nous qui sommes un peu plus âgés, on voit ça en termes de tendance, mais eux, c'est ancré en
c'est
eux.
C'est leur normalité.
Ouais, pour eux, maintenant, la diversité, c'est pas une question.
Mais ça devrait.
Je suis pas du tout en train de dire
que c'est normal. Hein,
ah non, bien sûr.
Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à des CEO ou à des designers qui sont peut-être pas dans la même réalité qu'eux, tu vois. Moi, j'ai donné des cours dans une école de mode la saison dernière. Et justement, tu sens bien que pour eux, c'est pas du tout... C'est ancré en eux, tu vois. C'est leur valeur, c'est leur truc. Et moi, je leur mettais des warnings, les gars. Genre, vous n'êtes pas arrivés, il faut continuer de se battre. Genre, les gens en face qui décident vraiment, pour eux, c'est pas leur réalité. Donc, tant que vous mettez pas la pression, malheureusement, il n'y a que ça qui marche. Bah, à la première occasion, ils reviendront à leurs anciens standards et c'est une réalité.
Mais ça, j'ai l'impression que ça vaut pour tout. En fait, on oublie très souvent qu'on est au début de plein de choses. Tu vois, quand tu regardes même, je te prends un truc d'une cause féministe, quand c'est réfléchi, en vrai, le droit de vote, tu vois, toutes ces choses-là, c'est hyper récent, donc c'est très, très, très fragile. Donc, en fait, si tu continues pas pendant encore des décennies, voire des siècles, bah, tu peux très, très facilement, en fait, en un claquement de doigts, tu peux vite revenir en arrière. Ouais, c'est en fait, vrai. C'est ça aussi que je te dis quand je te dis que c'est cyclique, c'est qu'en fait, bah, ce qui revient, c'est tellement ancré dans d'autres choses que quand ça revient, bah, ça efface un peu tout sur son passage. Donc, il y a vraiment encore du travail à faire et des passages en force à effectuer, tu vois.
Et je pense qu'on a tous des responsabilités aussi. C'est vrai que j'aimais bien, tout à l'heure, tu disais que tu te sens une responsabilité. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que ceux qui ont réussi à s'en sortir, on a une responsabilité de ne pas laisser les choses à l'ancienne revenir.
Complètement, parce que genre, j'ai aussi vécu la précédente fois où en gros les Noirs étaient à la mode. Genre dans les années 2012-2013, quand Naomi faisait la couverture du Vogue Italie. Et tout ça, et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu une époque où les personnes racisées qui réussissaient, on leur faisait bien comprendre que c'était des exceptions, et qu'elles devaient absolument pas, qu'elles devaient avoir peur de n'importe quelle autre personne qui arrivait, et j'ai l'impression que là, dans notre génération, déjà, c'est vachement différent, il y a plus d'entraide. Quand je vois un Ibe Camara qui fait travailler beaucoup de personnes non privilégiées, ou toute cette génération, Imro et tout ça, tout ce groupe de personnes qui sont montées à ce moment-là et qui
sont ultra talentueux aussi.
Qui sont très talentueux, mais qui ont une démarche un peu inclusive dans leur manière de penser la mode et qui se voient pas juste comme une exception, qui ont pas juste peur de toute personne qui arrive. Genre, je trouve que ça fait plaisir.
Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une manière aussi de valoriser les communautés. Pendant longtemps, on a considéré qu'être communautaire, c'était quelque chose de négatif. Je pense qu'on prend conscience progressivement aussi que ça peut être quelque chose de beau et de positif. Donc les gens ont moins de mal à se dire « Ok, je m'entoure de gens qui me ressemblent, avec qui j'ai une même vision, une même esthétique, un même code de valeur, etc. »
Moi, je sais que c'est un truc qui peut ne pas plaire, mais j'essaye toujours dans mes assistants... qui est le maximum de minorités, quelles qu'elles soient. Ça peut être... je sais que les personnes trans galèrent énormément dans ce milieu, et que quand elles commencent à travailler, souvent, ils sont moins payés que les autres ou ce genre de choses. Genre, j'ai eu deux ou trois assistantes trans qui m'ont raconté des histoires vraiment aberrantes par rapport à ça, ou qui sont sexuellement un peu... pas agressées, mais un petit peu titillées ou tout ça. Et du coup, je sais que autant à ce niveau-là que des personnes racisées, des personnes qui vont avoir moins un accès moins facile à ce milieu-là par la suite, je vais toujours favoriser ce genre de personnes lorsque je vais choisir un assistant que quelqu'un qui trouvera de toute manière un stage très facilement ou elle ou je me dis c'est pas la peine que je fasse l'effort, donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est un truc que j'en sais, genre de petites choses que j'essaie de faire.
Ouais, je pense que c'est nécessaire. On est encore, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est on est encore à un moment où c'est nécessaire de faire la discrimination positive.
Ok, cool. On va revenir un peu au pro. Toi, t'as ta relation avec Shai, du coup.
Ah oui, Shai.
Ah bah, quand même.
La jolie garce.
Alors, Shai, c'est...
J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu l'histoire. Et puis, quand tu commences avec elle, il y a une hype, mais pas la hype qu'elle a aujourd'hui. Comment c'est...
Alors, Shai, ça a aussi été pour moi genre un apprentissage du milieu et du racisme dans le milieu. Parce qu'avant elle, j'ai fait pas mal d'artistes.
Artiste rap, du coup, tu disais ?
Non, pas particulièrement. J'ai travaillé avec Lily Wood and the Freak.
Ah, cool.
Je sais pas si vous souvenez
une
chanson qui a été très populaire, Carrefour, machin, je sais pas quoi. J'ai fait Christine and the Queen. Et en fait, c'était tellement facile de bosser avec eux juste parce que les marques ont un respect pour eux, et même le plus moindre petit groupe de pop indé, en fait, il intéresse toutes les marques, tout le monde veut leur prêter.
Mais comment ça, faut commencer à respecter Shai.
Et je commence à bosser avec Shai. Non, mais je l'adore. Mais ça a été tellement plus compliqué d'avoir des vêtements des marques. Moi, je me recevais des réflexions un peu passéiste. Oui, elle ne correspond pas à notre marché. Oui, ceci, oui, cela. Et alors qu'en fait, genre, elle est juste... physiquement, elle est incroyable.
Ah,
et sa musique est plaît beaucoup.
Ça stream fort.
Quand je commence à bosser avec elle,
c'est compliqué. Comment se fait la connexion, déjà ?
Elle se fait par Guillaume Doubet, qui est un réalisateur avec qui j'avais travaillé avant et qui me demande si je veux bien... Alors, je devais faire... La première fois que j'ai dû bosser avec elle, en fait, je devais habiller les danseurs d'un de ses clips qui n'est jamais sorti, parce que son styliste à l'époque était Yann Weber, d'Antidote. Et en fait, sur le job, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre elle et moi. Et en fait, je vais quand même dire, je vais quand même le dire, mais en fait,
vas-y, dis,
je vais le dire. Disons que Yann à l'époque n'était pas intéressé pour habiller les danseurs parce que physiquement, il trouvait que c'était pas, il était peut-être habitué à bosser avec des physiques plus mannequins ou plus trucs. Il n'était pas encore dans sa période diversité.
Okay.
Donc, on a un casting de danseurs que lui trouve difficile. Et moi, en fait, genre, il y a différents types de corps autour de moi. Donc, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Donc ça se passe hyper bien et tout le monde trouve ce que je fais vraiment très beau. Et du coup, le clip n'est jamais sorti parce que ça correspondait pas à l'image qu'elle voulait véhiculer. Mais ensuite, lorsque elle décide de produire Jolie, c'est ça. Du coup, en fait, ils font appel à moi. C'était une époque où j'étais vraiment très bazardé parce que j'étais très stressé et que je commençais à fumer et que du coup, j'étais vraiment à l'ouest. Et du coup, le jour des essayages, j'arrive avec 5 heures de retard parce que j'avais un autre job ce jour-là et que j'avais juste oublié que c'était aussi le jour des essayages. Donc, j'étais en shoot pour Citizen K. Et donc, à la fin de ce shoot, enfin, on m'appelle pendant le set et on me dit, mais où est-ce que t'es? Enfin, Guillaume m'appelle hyper alerté, genre, où est-ce que t'es, machin truc. Et je lui dis, bah, ah, c'était aujourd'hui. Donc, je laisse mon assistante sur le job, je cours à mon bureau, machin truc, je ramasse toutes les fringues que j'avais prévues à peu près pour elle. Et j'arrive là-bas, genre, avec vraiment mes 5 heures de retard ou quelque chose comme ça. Hyper gêné, hyper stressé, hyper tout, mais on fait des essayages, et là, ça se passe vraiment trop bien. Genre, les looks qu'on développe pour ça, c'est... ça colle exactement à ce qu'elle voulait à l'époque. C'est genre... C'est l'esthétique qu'on a commencé à créer, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'avais... bossé avec des artistes, pour moi, c'est vraiment être conscient de l'image qu'ils veulent dégager. C'est pas pas la même chose que de bosser pour des magazines.
Bien sûr.
C'est qu'on doit vraiment avoir une
corrélation. C'est le reflet de sa personnalité,
de long terme,
ce qu'elle défend, surtout ça, elle défend quelque chose.
Mais surtout, c'est le reflet de la manière dont eux se perçoivent, pas forcément de qui ils sont. Et donc, du coup, moi, elle m'avait donné 2-3 références, Alia, Matrix et tout ça. Et de là, j'avais construit un personnage. Et aussi, je trouve que Shai, c'est vraiment une forme de féminité qui n'est pas faite pour plaire aux hommes. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, elle plaît pas aux mecs hétéros, Shai, elle s'en prend plein la gueule.
Pardon ?
Elle s'en prend plein la gueule de la part des mecs hétéros. La majorité, ils la réduisent à son physique.
Oui.
Les commentaires qu'il y a des mecs hétéros sur sa page, c'est « Oh, t'es trop bonne, oh, j'ai envie de te baiser, oh, quand est-ce qu'on passe la nuit ensemble ?» que des trucs comme ça. Genre, j'ai l'impression que la majorité n'écoute même pas ce qu'elle dit, ou beaucoup en tout cas. Sa fanbase, c'est des femmes et c'est des gays. Principalement.
Oui, oui, oui.
Sa vraie fanbase.
Non, mais d'accord, mais tu peux pas dire elle ne plaît pas aux hommes hétéros.
Elle plaît physiquement aux hommes hétéros, mais genre, il s'arrête beaucoup à son image, je trouve. Et du coup, en fait, quand elle me parle, je comprends que c'est une féminité qui... Genre, c'est une forme de sexy que les mecs... Enfin, j'ai pas envie de faire de grandes généralités, mais, ils préfèrent leur meuf naturelle au réveil. Ils l'aiment pas maquillée, pumpée, avec des mini-jupes en latex et des machins et des trucs. C'est des trucs qui mettent beaucoup de mecs hétéros un peu mal à l'aise ou qui font qu'ils catégorisent la femme dans un certain espace, genre c'est une chouin ou un truc ou quelque chose comme ça. Elle a eu quand même aussi pas mal de scandales par rapport à la perception que les gens se sont faites de choses qu'elle a écrites ou qu'elle a dites, qui pour moi étaient vraiment claires. C'était vraiment, j'ai pas envie de revenir sur ce truc-là, mais c'était vraiment, genre pour moi, c'était une manière de se foutre de la gueule de ce mec qui pensait qu'elle était achetable, et c'était une manière de... Enfin, pour moi, c'était clair, mais la majorité des gens qui, une fois, ont vu ces tweets et ces textos envoyés l'ont pris de la manière la plus premier degré possible, en mode
bah, si elle envoyait ça, c'est bien la preuve qu'elle voulait coucher pour une voiture, alors que. Enfin.
Ouais, vous n'avez rien compris.
Vous n'avez rien compris. Donc, en gros, pour moi, on commence du coup à développer un peu ce personnage, et je pense que ça, au moment où on commence à faire. Où on fait joli, ça match exactement, et genre. Je crois que je comprends parfaitement ce qu'elle essaye de transmettre. Et du coup, ça se passe hyper bien malgré les 5 heures de retard.
Bon.
Et on commence à vraiment bosser ensemble. De là, ensuite, j'ai un rendez-vous avec elle et son manager qui me disent qu'elle aimerait bien, développer son image dans la mode. Il y a cette phrase d'une chanson, je serais égérie sans que je m'adapte à eux, que moi, du coup, je capte tout et je me dis, mais en fait... En fait, c'est tellement possible et t'as tellement un potentiel de ouf par rapport à ça, et je pense qu'on peut aller tellement loin. Donc, je monte une sorte de stratégie où je me dis qu'en fait, bah, du coup, que c'est un milieu où, où tout le monde veut la personne que l'autre personne a. Donc, il suffisait pour moi de la rendre désirable en la faisant travailler avec quelqu'un qui allait la valider. Et là, forcément, bah, Ricardo...
Qu'est-ce qu'on appelle?
J'ai pas vraiment appelé, c'était un peu plus subtil que ça. J'ai organisé un édito pour un magazine pour lequel je savais que j'allais pouvoir avoir des grosses marques sans dire son nom. Donc, j'ai pas dit que c'était pour elle. Et elle a fait la cover, du coup, à l'époque de Slimmy Magazine avec un photographe que j'adore qui s'appelle Rivaldo Lopez. C'était Aurore au make-up, d'ailleurs, qui a fait un travail magnifique. Aurore, qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on l'habille pour la première fois. Elle a un look Dior, elle a un look Burberry, elle a un look Margiela. Elle fait la couverture en Margiela. Et je pense que nous-mêmes sur le set, on est en mode
waouh.
Waouh. Et genre, en fait, elle peut aller tellement loin, elle a tellement de potentiel et tout. Et du coup, quand l'édito sort, je le poste et je tag forcément Ricardo dessus. Et il m'appelle encore la même en me disant: mais c'est qui cette meuf? Genre, c'est une star, elle est incroyable et tout. Du coup, je lui dis: ah, mais c'est Shai, tu la connais pas? C'est une rappeuse française, belge, nanana. Et en fait, ma stratégie, elle a complètement marché parce que. Parce que du coup, Ricardo la valide, commence à l'inviter à des shows, commence à l'habiller, commence à... Et il la rencontre et elle a une personnalité qui est tellement touchante et qui est un peu loin du personnage qu'on peut s'imaginer. Où elle est... enfin, j'ai l'impression que là, sur ses dernières interviews, elle est plus naturelle, elle est plus à l'aise. Et... Parce qu'elle a beaucoup dit qu'elle était très timide et tout ça. Donc, elle se révèle un peu plus, mais quand lui la rencontre, il est aussi touché par sa personne. Et Ricardo, c'est un lion, donc c'est quelqu'un qui aime bien avoir... un lion, je suis le mec qui sort des signes. Bref, qui aime bien avoir une troupe de gens en qui il peut avoir confiance et qui valide. Enfin, il prend pas des égéries juste parce que c'est la meuf du moment.
Non,
il a besoin que la personne elle corresponde aussi à,
ah bah
à
c'est
son
lui
esthétique.
Qui les a fait, il y a plein de gens de son entourage. Enfin, la force qu'il a donnée au Maria Carla, au Léa Té, c'est un mec famille. Marina, enfin... Voilà, c'est des gens qui sont encore aujourd'hui ou qu'il aille autour de lui. Et
exactement.
Ça, c'est...
Irina.
Ouais, Irina, bien sûr. Irina, enfin, toutes.
Donc oui, donc il y a un vrai kiff qui se crée et du coup, elle commence... en fait, il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est qu'il est très exclusif. Donc c'est un moment où, genre, du coup, dans sa carrière, on n'a même plus besoin de se poser la question avec quoi est-ce qu'on va t'habiller parce qu'elle sera tout le temps en Burberry.
Ouais, elle était affiliée, hein.
Donc c'était trop cool et un peu plus facile pour moi. Et en même temps, genre, les créations de Ricardo sur elle, c'est tellement cohérent que genre... c'était
ça
une belle époque.
Trop bien.
Ouais, et c'est là où, en gros, j'ai un peu réussi mon pari de la faire valider par la mode.
À une époque où le rap, c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui, où on est content d'avoir des rappeurs au défilé en premier rang, de les habiller, etc.
Il n'y en avait pas à l'époque. Ouais.
Aussi. C'est rap et rap féminin. Je me rappelle elle de sa cover du Vogue Japon, genre.
Ça c'était incroyable.
C'est trop
incroyable. Qu'avec des superstars et Shayla au milieu, genre, immense. Tu te dis waouh. Enfin, je m'en rappelle encore.
Ok, donc ça c'est une collaboration que t'as quand même fait tenir sur des années.
C'est
après.
Une collaboration qui on a connue forcément. Il y a un moment où on a arrêté de travailler ensemble. Enfin, on a fait Nouvelle École ensemble, qui est une émission un télécrochet. Pas M6, mais Netflix.
Netflix, tout à fait.
Où vraiment la première saison se passe hyper bien. Il y a un moment, on était vraiment, vraiment, vraiment très proches.
Ouais.
Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné de très mauvais conseils. En fait, j'ai toujours des conseils qui sont très... Enfin, pour moi, c'était de mauvais conseils maintenant, quand j'y pense après, qui sont... où je la mettais, pour moi, c'était... Enfin, j'avais envie qu'elle réussisse et tout ça, donc... Et je me limitais aussi un peu moi-même, et j'avais l'impression qu'elle avait besoin de travailler avec d'autres gens pour aller plus loin.
Okay.
Donc je lui dis, il faut absolument que tu te prennes... faut que tu trouves un DA, parce que moi, je suis limité, les choses que je peux t'apporter, ça va s'arrêter. Et elle me ramène un mec avec qui ça se passe...
Très bien.
Pas très bien.
Parce qu'en fait, tout ce que moi, en fait, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait garder son identité, qu'elle avait vraiment pas besoin de changer, qu'elle avait pas besoin de changer pour devenir égérie ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je gardais beaucoup d'elle dedans. J'avais pas l'impression qu'elle était trop ghetto ou trop street ou trop ceci. C'est des choses que, pour moi, qu'on pouvait utiliser dans son personnage pour la faire ensuite, pour la rendre désirable. Et en fait, la personne qu'elle choisit comme directeur artistique, en fait, lui dit tout le contraire. Il lui dit, non, mais ton piercing, c'est vulgaire, ça fait trop street. Ah, mais ce genre de coiffure de Renoir, ça le fait pas, machin, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, on a un gros clash, enfin un clash qui n'est pas dit et qui n'est pas assumé, mais ça se passe pas, en fait, j'arrive pas...
Ouais, des visions contradictoires.
Des visions qui vont pas dans le même sens et qui, pour moi aussi, genre, vraiment vont à l'encontre de mes valeurs les plus profondes. Mmh. Donc, j'y arrive pas et du coup, on se sépare pendant un moment, la saison 2 de Nouvelle École. Et après la fin de la saison, genre au final, même je pense que peut-être elle se rend compte de ça et ils font rappel à moi, ça se dit ça ?
Oui, tu rappelles.
Oui, ok. Et ils me rappellent après pour rebosser ensemble et du coup depuis on retravaille ensemble.
Nice. Je vous ai vu sur Insta dernièrement, c'est pour ça que je voulais en parler parce que. Ça fait longtemps que... Tu vois, une aventure, ça a toujours des hauts et des bas, de toute façon.
Ah, mais je pense que c'était... En fait, ce que son manager, qui est aussi un ami du coup qu'on a en commun, enfin, moi, je le considère maintenant comme mon ami, m'a dit, c'est qu'il fallait que je croie plus en moi et que... Je pense qu'on a tous des moments un peu de doute et en fait, il m'a dit, mais en fait, ce que tu disais que quelqu'un d'autre peut faire, tu peux le faire toi. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en étais pas conscient et que j'étais vachement limité. Et cette période-là, elle m'a beaucoup appris sur ma perception de moi-même, de mon travail, de ce que je peux apporter aux gens.
Ouais. Mais par contre, t'avais un regard hyper bienveillant. C'est pas tout le monde qui se dit... Au contraire, t'as des gens qui se disent « Non, en fait, je vais prendre toutes les casquettes. Comme ça, je laisse de place à personne et je laisse l'espace à personne de me virer aussi, tu vois. » Donc, il y avait quand même quelque chose d'hyper bienveillant dans ce que tu initiais à la base.
Oui, bien sûr. Et je pense qu'en vrai, peut-être qu'on avait aussi tous les deux besoin...
De voir ailleurs dans un couple.
Exactement. Enfin, je sais pas si on a toujours besoin de voir ailleurs dans un couple. Ça, c'est... Je ne vais pas te valider sur ça.
Non, mais tu sais, c'est genre, vous avez besoin d'espace parfois ou de voir d'autres choses, quoi.
Oui. Enfin, en tout cas, je pense que... Enfin, maintenant, je pense que je sais que je suis avec elle parce que j'en ai vraiment envie et que, genre, j'aurais toujours envie de donner le maximum pour elle. Et,
ouais.
Et voilà. Okay. Donc, ça m'a appris ça.
Super, bon, décidément, je dis que des conneries aujourd'hui.
Non, tu dis pas des conneries. Tu as une manière différente de voir le couple, peut-être.
On va couper ça parce que tous les mecs là, ils vont m'appeler en me disant ah ben ouais, mais t'as dit ça, donc quoi.
C'est tellement pas toi.
Ah non, pas du tout.
C'est
l'inverse,
je l'ai dit un truc, mais alors là.
Mais comment, pas du tout.
C'est clair. Est-ce qu'on a d'autres choses dont on veut parler parce qu'on a fait un petit tour là.
Ouais,
on est parti dans tous les sens, mais on est. C'est quoi les dernières aventures d'Edem là?
J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup en ce moment, genre pouvoir voyager pour travailler et, ouais. Et juste explorer avec Kenny. Genre, on est un peu dans une sorte de un peu des globe-trotteurs où après être allé au Ghana plusieurs fois, on essaye de faire des séries un peu partout dans le monde et c'est un peu le truc qui me motive le plus en ce moment. Mais de nouvelles aventures, je ne sais pas.
Ça, trop bien.
Sortir du studio Rouchon.
Un peu, ouais.
Nathan Rouchon, ouais. C'est vrai que le gamin, c'est un peu mieux.
C'est incroyable.
Non, mais c'est trop cool. Est-ce que tu considères que tu as encore des étapes à franchir, que pour toi, il y a des gros milestones à accomplir?
Ah ouais, énormément.
Tu penses à quoi, par exemple?
Je pense que...
C'est la minute manifestation.
Oh là là.
On va mettre un petit sound de ball.
Allez, vas-y, mets en plein.
Non mais attends, pour rester dans ce thème-là, enfin, tu disais que t'étais le roi de la maille et tout, mais là, est-ce que ça te manque pas justement la marque de faire le styliste produit, mode, marque?
Bah, en fait, les jeunes autour de moi, les jeunes assistants et tout ça, genre qui font plein de choses... Je pense que ce que j'aime en ce moment aussi, c'est être cette figure de vieux père.
De mentor.
Non, mais on me voit beaucoup comme un vieux. Genre, j'ai une assistante qui m'appelle, qui m'a. Ah, on était en fait. Alors, on allait à Milan pour un job. Elle a 20 ans et je n'en ai que 36. Mmh. Et du coup, dans la queue, une fois qu'on a passé nos bagages, elle se tourne vers moi et elle me dit oh là là, mais tout le monde va croire que t'es mon père.
On dirait que t'as même pas 30 ans. Ils sont durs, hein, ces milliers. Non, c'est quoi?
C'est des Gen Z.
Ah,
et du coup, je suis en mode, ok, d'accord, merci. Et genre, je l'ai vraiment mal pris. Genre, je crois que je l'ai gueulé dessus pendant tout le trajet, elle était morte de rire. Mais, mais en vrai, cette figure de vieux père, un peu, ça commence à me faire plaisir d'avoir des gens à qui je peux donner des conseils, des gens que je peux guider, des gens que je peux conseiller. C'est un truc qui me fait vachement plaisir. Donc,
non, c'est trop bien.
Et j'ai pas envie de le monétiser parce que genre, j'ai vu qu'il y a des stylistes qui en ce moment proposent des formations payantes. En gros, avoir des assistants qui les payent eux. Et je suis en mode waouh. Donc, peu importe, c'était une petite parenthèse dans la parenthèse, mais genre, ouais, c'est un truc qui me fait vachement plaisir et genre, c'est là aussi où je trouve vraiment mon kiff.
C'est pour ça qu'on veut que tu viennes en podcast.
Ah.
Depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
Bah, c'est pour ça que
je suis là. C'est aligné, c'est très bien. Mais non, mais c'est trop cool. Et ouais, du coup, consulting, tu fais un petit peu pour les marques ou pas?
Comment est-ce qu'on a ce genre de job, dis-moi?
Ah, bah ça, faut te demander à Justinian, hein.
On appelle.
Parce que non, je suis pas consulting pour les marques, mais j'aimerais bien, ouais. Mais c'est pas quelque chose qu'on m'a jamais proposé, donc.
Ok.
Je ne sais pas si je vais frapper aux portes et dire prenez-moi, j'ai plein de conseils à vous donner.
Non, mais ça peut l'être, tu vois, pour les jeunes marques et tout, qui commencent à défiler, qui commencent à construire des collections, etc. Je pense que c'est un truc qui est recherché, quand même.
Manifestation.
Je t'ai dit, c'est le moment.
Ça, c'est trop bien, ouais, ça serait trop cool.
Non, mais c'est ça. Artiste, tu continues de bosser avec d'autres artistes? On a parlé de Chai, mais il y en a peut-être d'autres.
Disons qu'elle est aussi, c'est aussi une lion. Ouais. Donc en fait,
un peu d'exclusivité.
Ouais, d'exclusivité, donc je ferai pas de trucs qui la mettent mal à l'aise. Et aussi, enfin, je
t'as
pense
de l'Inter.
De l'Inter, qu'est-ce que c'est que ça?
Enfin, artistes internationaux, quoi. Un truc qui serait sur une autre.
Oui, pourquoi pas?
Un groupe de K-pop, un truc comme ça, genre.
Gros artiste US.
On parlait là de quoi? Du Ghana, il y a des bêtes d'artistes.
Mais j'ai l'impression que, genre, faut. Enfin, pour faire un bon taf avec un artiste, faut aussi.
Le comprendre.
Ouais.
Et j'aimerais pas juste faire. J'aime pas ce truc de styliste qui arrive et qui est en mode. Ça, c'est le look à la mode, faut que tu portes ça. Et non. Donc si je dois travailler avec d'autres artistes, il faudrait que ça se passe comme ça s'est passé avec Shai.
Ouais. Très organique. Ouais. Ok. Non, mais trop bien. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose?
On a un nouveau truc qu'on va tester.
J'ai tout dit. Ah ouais, alors attends. On peut te laisser un peu de temps s'il faut.
Vas-y.
J'aimerais bien qu'on mette en place un truc dont j'ai parlé à Nico juste avant. C'est en gros, tu laisses une question que nous, on se chargera de poser au prochain invité. Et on va essayer de construire un espèce de cercle comme ça.
Ah, ok. Alors.
Donc on te met dans la place de l'intervieweur.
Que penses-tu pouvoir faire pour impacter positivement le milieu dans lequel tu travailles, tout simplement?
Trop belle question. On la posera au prochain invité, du coup.
Parfait. Bah, merci beaucoup, Edem.
Merci à vous.
C'est un plaisir.
À de même, partagez.